Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Évasion pour ce troisième numéro de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air. Avant d'aborder le thème ô combien labyrinthique de ce numéro, Pierre-Yves et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, la santé et toutes ces sortes de choses. Alors le sujet labyrinthique, c'est l'anarchie, son histoire sur le sol national, ses courants, son évolution, et nous allons voir que ce n'est réellement pas une mince affaire et tomber de surprise en surprise. Non, l'anarchie, ce n'est pas le chaos et n'est pas anarchiste ou pas forcément celui ou celle qui se promène une croix à la main vêtue d'un t-shirt noir orné du célèbre A cerclé. Remballer les images d'Épinal sans aucune réalité, le grand spécialiste de ce courant de pensée en France, l'historien Sylvain Boulouk, auteur d'un remarquable ouvrage de référence, « Le peuple du drapeau noir », sous-titré « Une histoire des anarchistes », paru aux éditions Atlant dans la collection « Une autre histoire », a très gentiment accepté de venir nous guider à travers les arcanes de ce mouvement des origines à nos jours. Bonjour Sylvain Boulouk.
Bonjour.
Meilleurs vœux pour 2023 et merci pour votre participation.
Ben, merci pour votre invitation.
Ben, alors, on ne va pas aller très loin parce que ma première question, elle porte sur le sous-titre. Vous avez sous-titré une histoire des anarchistes et pas une histoire de l'anarchie.
Alors, ça renvoie à plusieurs choses que j'ai tenté de mettre en valeur. Une histoire des anarchistes, parce que je pense qu'il y a plusieurs histoires possibles de l'anarchisme. J'ai donc voulu apporter ma vision et ma contribution à l'histoire de ce courant et de cette philosophie, mais sans exclure d'autres qui ont été rédigés auparavant et d'autres, j'espère, qui viendront après. Donc, il n'y a pas d'exclusif dans mon propos et il s'agissait de tenter de montrer pourquoi le sombre du peuple du drapeau noir est encore aujourd'hui un thème d'actualité, quelle a été son histoire, quelle a été surtout ses modes de transmission et pourquoi justement encore aujourd'hui il fait une présence importante dans la vie sociale, politique et peut-être surtout culturelle. Alors en France, puisque le propos est exclusivement français, mais dans le reste du monde où il y aurait peut-être d'autres modalités à étudier, mais ça pour l'instant...
La France, c'est déjà pas mal.
Voilà, exactement.
Et puis, c'est une église où il y a pratiquement autant de chapelles que de paroissiens.
Alors, je ne sais pas si le terme église convient tout à fait au
non,
terme.
Non, pas du tout, justement, c'est pour ça que je l'ai employé.
Alors, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un peu, alors, avec une métaphore un peu voulue, c'est un peu une auberge espagnole, c'est-à-dire que vient à l'anarchisme chacun avec sa propre vision du mouvement libertaire, sa conception ou ses conceptions du mouvement libertaire, en sachant qu'il y a quand même, malgré tout, quelques points communs et quelques ressemblances qui sont partagées par l'ensemble. Alors, soit certains diront camarades, d'autres, et plus largement, disent compagnons, pour évoquer les autres libertaires ou les autres façons de développer les idées libertaires.
Ouais, camarades, il y a un petit peu un côté bolchevique là qui doit pas leur plaire de trop.
Il y a un côté bolchevique et il y a un côté, enfin bon, l'expression existe également, hein, mais il est vrai que souvent on entend compagnon parce qu'il y a aussi, c'est important, compagnon au sens étymologique, hein, celui qui partage le pain, et il y a cette culture de l'amitié qui peut être très très forte chez les libertaires, même chez ceux qui ne sont plus libertaires mais qui l'ont été et qui conservent un certain nombre de moments forts, parce que ça a constitué leur histoire et donc des moments forts de leur histoire.
Oui, on verra ça plus tard et quitte à pardonner des péchés qui sont quasiment mortels. On connaît les cinq piliers de l'islam et les dix commandements, mais pour les anarchistes, il existe quatre principes fondamentaux, vraiment, pour se dire anarchiste, et quatre repoussoirs non négociables.
Oui, c'est quatre anti plutôt que quatre autorisations ou façons de croire. Ces quatre anti, c'est d'abord l'anticapitalisme, c'est-à-dire que l'anarchisme est une forme de socialisme avec des variantes extrêmement importantes, mais donc il se refuse de la société, il refuse la société du profit et il refuse donc le système économique dans lequel ils vivent, donc la société capitaliste et libérale telle qu'elle peut exister, telle qu'elle a pu exister ou telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que l'anarchisme est aussi un enfant de la révolution industrielle et a condamné un certain nombre d'aspects inégalitaires de la révolution industrielle. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'anticléricalisme. Donc, c'est vrai que du coup, il devient assez difficile de parler d'église à propos des libertaires, même si on pourrait voir qu'un certain nombre de libertaires ont eu une formation religieuse qui a été importante et qui peut-être est à l'origine de leur anticléricalisme à venir. Nombre d'entre eux sont par exemple passés par les jésuites et ont développé une rancœur assez tenace vis-à-vis de l'église.
Et vous dites à un certain moment que ça peut expliquer, ouais, avec des guillemets, des relents antisémites.
Alors, ça explique les relents antisémites parce qu'il y a souvent une perception de la religion des religions, hein, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, une animosité particulièrement forte envers les religions. Dans le cadre de l'anti-judaïsme au sens religieux du terme, il y a une perception que les libertaires n'ont pas tous vue, c'est que ça renvoie à l'histoire du judaïsme, c'est que le judaïsme est au départ une religion, mais c'est une religion qui s'est laïcisée et c'est une religion qui s'est entre guillemets peuplisée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont juives sans avoir la moindre attache religieuse et sans avoir la moindre croyance religieuse, parce que c'est à la fois une religion, mais c'est aussi un peuple ou des peuples juifs. Et donc, à partir de ce moment-là, certains libertaires n'ont pas vu cette évolution et ont assimilé les juifs au capitalisme, voire même pour certains d'entre eux, sont allés beaucoup plus loin, puisque un d'entre eux au moins, plusieurs d'entre eux même, ont versé dans le négationnisme en disant « ça sert ». L'État, ce qui permettrait de renvoyer au troisième pilier de l'anti-anarchisme, enfin des pratiqués par les anarchistes, c'est-à-dire un anti-étatisme assez virulent. Mais effectivement, il y a un problème. Alors, il faut pas accentuer que sur ce problème, parce que quand on prend par exemple l'affaire Dreyfus, les premiers à s'être levés pour le capitaine injustement condamné sont les libertaires.
Tout à
Donc,
fait.
On voit une complexité beaucoup plus grande, en fait, qu'une simple... un simple relent d'anti-judaïsme qui muterait vers l'antisémitisme. C'est quand même, là encore, on retrouve cette diversité, cette polyphonie libertaire qui est très importante et qui caractérise justement ce mouvement, ce qui rend l'analyse l'analyse de ce mouvement libertaire relativement complexe.
Oui, et vous le dites très bien, tout cette appartenance se définit en contre. Et ils sont contre l'État, contre l'Église, contre l'armée, contre le capitalisme. Mais en fait, ils sont jamais pour. Et le mouvement anarchiste n'a jamais fait de prosélytisme. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas bâtir un projet de société à partir de contre ?
C'est plus compliqué. Il y a eu du prosélytisme libertaire, il y a une propagande qui existe. Hein. Vous avez des médias libertaires, une radio libertaire, des maisons d'édition libertaires. Donc on a cet aspect de propagande par les textes qui est très présent. Hein. Vous pouvez rencontrer un certain nombre de libertaires qui vont vous distribuer des tracts. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est pas aussi, les modes de propagande ne sont pas aussi caractéristiques que dans d'autres groupes politiques, si on prend les courants issus du socialisme au XIXe siècle ou au XXe siècle, que dans le socialisme démocratique ou que dans le communisme autoritaire. Donc on a cette différence. Différence qui est accentuée aussi parce que les libertaires cherchent à montrer par l'exemple qu'ils veulent vivre en communauté ou vivre d'une autre manière des alternatives à la société capitaliste. Et souvent, ils se rassemblent dans des groupes affinitaires, voire dans des communautés. Au début du XXe siècle, par exemple, il y a eu ce qu'on a appelé, alors la communauté, enfin la collectivité communiste d'Aiglemont, qui était un certain nombre de libertaires qui se rassemblaient pour essayer de montrer un mode de vie complètement différent et une alternative possible au système capitaliste. Alors, ce sont des micro-expériences qui ont duré plus ou moins longtemps, sans être généralisées à l'ensemble de la société. Toujours est-il que quand on revient à ces expériences libertaires, il y a effectivement une tendance à plus montrer par l'exemple, montrer par la réalisation de ce que peuvent être les idées libertaires que par un grand courant doctrinaire qui chercherait à transformer juste par la propagande la société dans laquelle on vit.
Ce qui on en parle, les expériences par exemple, il y a Léo Mallet qui en parle dans Brouillard au pont de Tolbiac, où il parle d'une communauté végétarienne ou végétalienne, voilà, oui, je ne sais plus.
Il y avait un restaurant, Léo Mallet, au début de sa carrière, alors il n'était même pas encore écrivain, au début de sa vie politique et publique, a fréquenté le restaurant végétalien qui était dans le 12e arrondissement. Ce restaurant était aussi un mode de vie alternatif, c'est-à-dire que chacun payait en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités. Et il y avait une volonté de montrer qu'il était possible là aussi de vivre autrement que plutôt que d'instaurer des prix fixes pour tous les clients. Donc c'était un autre. Et puis deuxième chose, le rapport aux animaux. Alors c'est quelque chose d'assez nouveau. On est au début du XXe siècle. L'idée de pas manger de viande parce qu'il y a le bien-être animal qui pourrait exister, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et ça renvoyait ici aussi au mode de consommation, à un mode de vie plus frugal, on va dire, que ceux qui pouvaient exister par ailleurs. Donc vous avez effectivement dans l'anarchisme un modèle qu'un historien de l'anarchisme également a appelé le modèle individualiste réalisateur, c'est-à-dire montré par la réalité de ce que peut être la vie quotidienne. Éducationniste réalisateur, pardon. Les expériences au quotidien permettaient l'éducation. Mais cette éducation, on la retrouve aussi d'une autre manière dans un courant très important du mouvement libertaire, qui a été le syndicalisme libertaire, dans lequel les libertaires se sont beaucoup investis, puisqu'ils sont à l'origine de la fondation de la Confédération Générale du Travail à la fin du 19e siècle, entre 1893 et 1896. Et là aussi, c'est une volonté de montrer par l'expérience que les travailleurs peuvent s'approprier leur outil de travail. Alors, l'idée était de mettre en avant que les ouvriers pouvaient par eux-mêmes contrôler et produire l'ensemble des produits.
Et que le syndicat suffisait. Le syndicat suffisait
à gérer l'économie.
Et c'est là où ils sont opposés très frontalement avec les communistes plus tard, le parti communiste n'est pas encore fondé. Mais à partir du moment où les communistes ont remis les mains sur la CGT, il y a eu des scissions, etc. C'est parce que pour l'anarcho-syndicalisme, c'est penser que le syndicat suffit pour montrer que l'ouvrier est capable de se gérer.
Il y a cette dimension-là, ce qui veut dire qu'il laissait la part d'autres aspects de la société gérés par d'autres groupes sociaux, d'autres corps sociaux. Par exemple, il n'était pas question que ce soit un parti État ou un groupe qui gère l'ensemble de la société. Chaque individu devait être responsable devant la société ou gérer toute une partie de la société. Donc effectivement, dans le courant syndicaliste, il y a cette dimension de gestion du travail et de gestion de la vie à venir. Donc c'est un autre élément qui est important et qui montre aussi la complexité qui n'est pas que des Antilles, mais qui est aussi une autre manière d'envisager le rapport à la politique et aux politiques. C'est-à-dire que les libertaires, d'une manière générale, ont un rapport anti-politique à la société. C'est qu'ils ne veulent pas de la politique au sens politicien du terme, avec les élections, avec la prise de décision qui imposerait le tout aux autres. Ils veulent que chaque personne, chaque individualité participe à la vie culturelle et sociale dans laquelle il est investi. Ce qui entraîne dans cette dimension une vision un peu différente et un effet des autres courants politiques et sociaux.
Il y a un effet qui est très très différent, c'est ce qu'on a appelé la propagande par le fait. qui commence dès 1881, et ce qu'on a appelé la reprise individuelle, donc qui a fait toute la légende de l'anarchie avec la bande à Bono, Ravachol, etc.
Ça, c'est un peu des légendes, entre guillemets, noires, sans mauvais mot, et des légendes particulières de l'anarchisme, c'est-à-dire que... qui sont une réalité aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un courant dans le mouvement libertaire qui a considéré que les expériences que j'ai évoquées précédemment ne permettaient pas d'accélérer la transformation de la société. Et donc, ils ont tenté de procéder d'une autre manière en tentant d'éveiller la population par des actes symboliques. Ces actes symboliques, au départ, pouvaient être juste des actions ponctuelles, comme a pu le faire Louise Michel en 1883, c'est-à-dire dans une manifestation, aller piller des boulangeries pour montrer que le peuple avait faim et que le peuple était capable de se nourrir par lui-même. C'est un côté de reprise individuelle ou de reprise collective, mais de reprise des richesses ou d'une partie des richesses par un groupe. Deuxièmement, donc c'est un peu ce qui a été théorisé au départ par l'expression propagande par le fait. Le fait, c'était pas forcément une action entraînant la mort d'autres personnes. Il se trouve que dans cette logique, qui est quand même en même temps une logique violente, puisqu'il fallait pousser les forces de l'ordre à s'écarter pour rentrer dans ces boulangeries, un certain nombre de militants se sont dit ça ne suffit pas, il faut vraiment montrer l'exemple à la société en détruisant. Des groupes ou des personnalités politiques symboliquement. Et c'est ce qui a donné la deuxième phase de la propagande par le fait, qui s'est traduit par des attentats individuels que l'on retrouve avec Ravachol qui veut venger les morts de la fusillade de Clichy en 1892 et qui va passer à l'action armée. Et pendant les années 1892-1894, il est vrai que les libertaires ont commis un nombre d'attentats relativement importants, puisqu'on a un président de la République, Sadi Carnot, qui a été tué, il y a eu une bombe à la Chambre des députés, il y a eu une bombe qui a explosé dans un commissariat, et il y a eu...
le chef des Camelots du Roi.
Alors ça, c'est plus tard. Oui. Il y a eu en 1894 également un attentat dans un restaurant fréquenté par des bourgeois, mais attentat qui a blessé un militant libertaire en même temps, qui était l'artiste et symboliste Félix Fénéon. Mais donc, où il y a cette dimension. Ce qui s'arrête en 1894 à cause d'une loi qui a été votée, qu'on a appelée par la suite les lois scélérates, et que l'État avait appelé les lois anti-anarchistes, interdisant la propagande anarchiste. Sauf qu'on était dans un État démocratique et que les juges, à chaque fois qu'il y avait un procès pour propagande anarchiste, étaient obligés de reconnaître que ceux qui jugeaient n'étaient pas responsables des attentats qui avaient été commis. Et donc, l'État a très rapidement abandonné, en fait, cette façon de procéder. Les lois sont restées en vigueur pendant un siècle avant d'être abolies un siècle plus tard en 1992. Mais il y a eu cette tentation. Cette tentation de la violence, on la retrouve à plusieurs épisodes. Après, il y a eu l'épisode de la bande à Bono, effectivement, où quelques militants se sont regroupés pour braquer des banques et tenter de faire de la reprise individuelle. Vous aviez eu un autre épisode où on est à la limite de la violence et juste de la récupération individuelle. C'est tout l'épisode des travailleurs de la nuit animé par Marius Jacob. Mais il se trouve que ces travailleurs de la nuit, quand ils étaient en train de cambrioler un appartement ou un immeuble, un appartement de luxe, on va dire, pouvait être confronté à la présence de personnes à l'intérieur. Et à plusieurs reprises, il y a eu des violences faites contre les personnes. Au XXe siècle, on retrouve après la Première Guerre mondiale aussi quelques actes symboliques relativement forts. Donc le fameux attentat l'assassinat du chef du service d'ordre de l'Action française, Marius Plateau, par Germaine Berton. Qui tue délibérément. Alors, elle voulait tuer Charles Maurras, mais elle ne le trouve pas, donc elle tue, en fait, Marius Plateau, qui est le responsable du service d'ordre. Vous avez eu aussi une bombe qui a été posée au début de l'affaire d'Arsacco et Vanzetti à l'ambassade des États-Unis pour alerter l'opinion contre ce qui était en train de l'exécution annoncée des deux anarchistes américains. Puis, cette tendance à la violence a disparu, si on excepte quelques cambriolages qui servaient à financer le mouvement libertaire, mais là, qui était plutôt pacifique, oui. Il s'agissait juste de récupérer de l'argent pour que la presse libertaire puisse continuer à vivre.
Mais on va faire une première pause. Première pause musicale avec tous ces attentats et tout ça. C'est peut-être ça qui aurait donné une mauvaise réputation, comme le chantait Georges Brassens, la mauvaise réputation du mouvement anarchiste. On se retrouve tout de suite après.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Voilà la mauvaise réputation. Alors, nous sommes toujours avec Sylvain Boulouk pour Le Peuple du Drapeau Noir, une histoire des anarchistes qui est parue aux éditions Atlante dans la collection Une autre histoire. Et nous arrivons à la guerre, la première guerre mondiale, la guerre de 14, où là, il y a des scissions qui vont apparaître dans l'anarchie entre ceux qui finalement vont se résoudre à adhérer à l'union sacrée contre l'ennemi héréditaire allemand et d'autres qui sont pacifistes intégraux et qui refusent absolument toute intégration dans l'armée.
Oui, alors là, ça renvoie au rapport que les libertaires peuvent entretenir avec la guerre. Il faut, dans le cas qu'on évoque, penser que la Commune de Paris n'est finalement pas encore très très loin, et l'origine de la Commune de Paris est quand même un soulèvement national contre les conséquences de la guerre franco-prussienne de 1870, et que, y compris chez les premiers libertaires comme Élisée Reclus, pendant la guerre de 70, dit au départ, il faut défendre la patrie contre la menace césarienne, puisque l'Allemagne est assimilée à un État autoritaire, et défendre les libertés démocratiques contre cet état autoritaire. Donc il y a effectivement cette dimension qui est très présente cette notion qui est très présente. Après, il y a une deuxième chose, c'est que faire quand une guerre éclate. Et les libertaires, pendant plusieurs décennies, ont tenu un discours antimilitariste en disant si la guerre éclate, nous mettrons la crosse en l'air et nous romprons avec le militarisme et nous espérons faire la révolution. Sauf que quand éclate la Première Guerre mondiale, c'est pas exactement ce qui se passe, puisque la majorité de la population, pour différentes raisons, finit par rejoindre son bataillon, et très très peu de libertaires désertent ou arrivent à s'opposer à s'opposer d'une manière active à la guerre. Par exemple, on a un très très beau témoignage de Gaston Leval sur les premières heures de la déclaration de guerre, qui explique très clairement que il n'arrive pas à mobiliser ses compagnons dans des actions antimilitaristes pour tenter de répondre à cette menace. Et là, avec la déclaration de guerre, le mouvement libertaire éclate. C'est-à-dire qu'il éclate entre ceux qui vont dire ceux qui ne vont rien dire, d'une part, ceux qui vont dire il faut malgré tout soutenir plutôt la France que l'Allemagne, souvent parce que ce sont des militants, et je reviens à la Commune de Paris, qui ont connu la Commune de Paris ou qui ont connu les lendemains de la Commune de Paris avec ce souvenir assez pressant du militarisme prussien. Mon libertaire donc qui éclate en 1914 entre ceux qui sont partisans de l'Union sacrée et donc qui vont défendre l'idée de défendre la France contre la déclaration de guerre allemande, et puis une majorité de militants qui va dire non, il faut rester sur des positions pacifistes et qui va défendre une position, on va dire, antimilitariste. Après, quand on regarde dans les faits, ceux qui ont déserté sont très très peu nombreux, donc quelques dizaines. Donc on a réellement une dimension complexe à analyser de cette histoire du mouvement libertaire et de la participation des libertaires à la fois à la Première Guerre mondiale et aussi au refus de la Première Guerre mondiale. Ce qui se passe, c'est que le mouvement libertaire, après la Première Guerre mondiale, a critiqué ceux qui avaient soutenu l'Union sacrée, et donc, en critiquant ceux qui ont soutenu l'Union sacrée, a eu tendance un peu à réécrire son histoire sur le thème que les libertaires ont tous été opposés à la Première Guerre mondiale, alors que la réalité est en fait un peu plus compliquée, puisque un certain nombre d'entre eux avaient quand même participé à l'expérience du front. Mais l'antimilitarisme aidant, la dimension antimilitariste des libertaires a réapparu très très rapidement.
Oui, et il y a un phénomène encore nouveau qui va apparaître pour les libertaires et qui va encore pas leur simplifier le travail, c'est la révolution d'octobre. En novembre d'ailleurs, et qui est une révolution bolchevique, qui n'est pas du tout une révolution anarchiste, et qui va leur poser un énorme problème politique.
Oui, alors qui pose un problème politique non pas seulement aux libertaires, mais je crois à l'ensemble de l'humanité. Alors effectivement, donc en Russie en 1917, vous avez eu deux révolutions. La première en février qui instaure un semblant de société démocratique, et en octobre 1917, donc effectivement le 7 novembre dans notre calendrier, une deuxième révolution qui est en même temps une prise de pouvoir par la force, donc qui est la prise du pouvoir par les bolcheviks. Et cette prise du pouvoir par les bolcheviks entraîne la captation de tous les éléments qui pouvaient être aussi partagés par les libertaires, puisque les mots d'ordre de Lénine, c'est la terre aux paysans, les usines aux ouvriers, la paix immédiate et un certain nombre d'autres thématiques qui sont proches des idées libertaires. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une période d'ambiguïté qui se fait, qui existe en Russie et qui se retranscrit. Alors, en plus, en France, les événements sont racontés avec difficulté, puisque on n'est pas du tout à l'ère d'Internet. Hein. Ce sont des correspondants qui racontent ce qu'ils voient à plus ou moins longue, dont on reçoit les témoignages à plus ou moins bref, avec plus ou moins de vitesse. Et donc, au départ, il y a une ambiguïté en disant le régime bolchevique, ils ont quand même réussi à prendre le pouvoir et à instaurer une société révolutionnaire dans laquelle, effectivement, les ouvriers pouvaient contrôler plus ou moins quelques usines et les paysans récupérer la terre. Sauf que très rapidement, et dès le mois de décembre 1917, les bolcheviks mettent en place ce qu'on appelle la Tchéka. Donc, la Tchéka, c'est la commission extraordinaire de lutte contre la contre-révolution. Et dans la vision bolchevique, c'est un peu ce que dit Lénine, hein, c'est laisser mon parti au pouvoir et les autres en prison. Et donc, une des premières choses que fait le parti bolchevique, c'est de faire arrêter, dès le mois d'avril 1918, donc quelques mois après leur prise de pouvoir, faire arrêter notamment les anarchistes. Alors, pas que les anarchistes, hein, puisque toute une partie des oppositions politiques aux bolcheviques sont en prison, mais faire arrêter une partie des bolcheviques. Au départ, les libertaires n'ont pas forcément d'informations. Et dès qu'ils commencent à en avoir, il y a une période de doute, en disant, vu la transformation révolutionnaire possible, il y a peut-être une possibilité de transformer la société.
Pourtant, Lénine, c'est pas un nouveau venu, c'est pas un mec qui débarque. Il a des écrits théoriques sur l'État, donc que faire.
Oui, mais ça ne veut pas dire que les libertaires l'aient lu, Lénine. C'était pas du tout. Les libertaires lisaient d'abord et avant tout la littérature libertaire. Donc, ils s'étaient pas, sauf que quelques cas exceptionnels, ils s'étaient pas penchés sur Que faire. Que faire, qui en plus n'était pas traduit en français.
D'accord.
En 1904. Donc, les libertaires français, ils voient Lénine. Enfin, ils savent pas exactement qui est le personnage de Lénine. Du reste, à ce moment-là, peu de gens savaient. Enfin, lui savait exactement quel était son dessin politique, mais peu de gens étaient étaient éclairés sur son dessin politique réel. Et donc, à partir de 1921 et de la répression de l'insurrection de Kronstadt, donc de Marin qui avait participé à la révolution en 1917, d'une part, et d'autre part la répression contre les paysans insurgés ukrainiens, qu'on appelle la Makhnovchina du nom du principal leader libertaire Nestor Makhno, il y a une forme de répression. Alors, même chose, ça touche les libertaires, mais ça touche pas que les libertaires. La répression en Russie soviétique, par exemple à Tambov, c'est des paysans qui se sont insurgés contre le pouvoir soviétique, il n'y a pas de dimension libertaire. C'est le pouvoir soviétique qui ne supporte pas toute forme de contestation et toute forme de pluralisme politique ou social. Donc, à partir de ce moment-là, les libertaires prennent conscience du danger pour les libertés publiques, parce que les libertaires sont particulièrement attachés aux libertés publiques. Donc, ils ne prennent pas conscience de cette dimension. Et
il y a beaucoup de scissions qui
condamnent. Il commence à condamner le système bolchevique. Sauf qu'une partie des libertaires se dit, mais le système bolchevique est quand même celui qui a réussi et a été le plus efficace. Et donc, il y a une rupture qui s'opère chez les libertaires dans cette vision du bolchevisme, et ce qui fait qu'un certain nombre de libertaires vont rejoindre au moins temporairement les bolcheviques. Un des exemples les plus connus, c'est Victor Serge. Victor Serge avait participé avait soutenu la bande à Bonneau avant la Première Guerre mondiale, était un anarchiste plutôt individualiste. Il part en Russie en 1917, enfin, il part en Russie et là, il rejoint les bolcheviques et il mettra quelques années à se rendre compte qu'il s'est trompé et que les bolcheviques ne sont pas du tout les gens à qui il aspire, que c'est pas la même aspiration à l'égalité et à la liberté. Et à partir de 1921, même s'il y a des critiques qui existent dès 1918-1919, à partir de 1921, le mouvement libertaire qui reste constitué devient dans son intégralité, alors certains diront anti-léniniste, d'autres diront anti-bolchevique, d'autres diront, pour généraliser encore plus, anti-communiste. Toujours est-il qu'il y a une hostilité forte qui se manifeste à l'encontre du régime bolchevique et de la façon de gouverner des bolcheviques, sachant qu'en plus un certain nombre de leurs compagnons des libertaires sont en prison, et que donc il y aura un certain nombre de campagnes de solidarité qui vont exister pour faire libérer telle ou telle personne. Ce sera pas avec beaucoup de succès, néanmoins ils arriveront à arracher aux griffes de la Tchéka quelques dizaines de libertaires qui réussiront à se réfugier, qui en Allemagne, qui par la suite en France, comme un des futurs historiens de de la révolution libertaire qui a eu lieu en Russie entre 17 et 21, qui était Voline, qui lui viendra en France et participera activement au mouvement libertaire français. Donc il y a cette pierre angulaire et ce problème majeur qui apparaît dans l'histoire du mouvement libertaire avec, comme toujours dans le mouvement libertaire, à chaque fois, des individualités qui se positionnent. Oui. C'est-à-dire que c'est pas un courant politique en tant que tel qui est fortement structuré, c'est une multitude d'îlots et de petits groupes qui vont se positionner avec les informations qu'ils ont, avec la compréhension du monde qu'ils ont. Certains trouveront des aspects positifs dans le régime politique, dans le régime bolchevique, par exemple, autour de la question anticléricale. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de nuances possibles qui peuvent exister dès qu'il s'agit d'évoquer l'histoire et le passé de ce...
À chaque fois, dans votre livre, vous revenez quand même sur un fait qui est propre au mouvement anarchiste, c'est le repli sur soi dès qu'il y a des gros problèmes qui surgissent, comme par exemple s'apercevoir que la révolution de 17 n'est pas la libération de l'humanité, et un refus d'une autocritique.
Alors, c'est le problème aussi que les libertaires ont. C'est-à-dire qu'ils voient qu'ils ont commis des échecs et, souvent, ils s'attribuent ce dont ils sont en partie responsables, la responsabilité. Ils cherchent des solutions, mais souvent, les solutions qu'ils cherchent vont alimenter des querelles de tendance et des conflits entre les individus plutôt que d'arriver à trouver de nouveaux modes de propagande et de développement de l'idée libertaire. Et c'est vrai qu'à partir de 1921, en Europe d'une manière générale et en France en particulier, l'idée libertaire a eu tendance à refluer, même si on retrouve quelques éléments dans le mouvement syndical, dans le tissu associatif. Mais le poids écrasant du communisme et le fait que le communisme se présente comme la seule pensée révolutionnaire avec le fameux qui est avec nous, qui n'est pas avec nous et forcément contre nous, fait que vous avez tout un tas de libertaires qui sont soit qui se rallient au bolchevisme, soit qui restent sans voix ou avec une voix qui devient complètement inaudible. Mais c'est aussi parce que les libertaires n'ont pas réussi à trouver une solution pour résoudre ce problème.
Ce qu'on voit dans votre livre, c'est par exemple de 1926 à 36, il y a trois organisations nationales libertaires, anarchistes, qui se créent, ont généré chacune cinq scissions. Mais comment s'y retrouver, quoi?
Alors, comment s'y retrouver? C'est vrai que c'est un peu l'histoire organisationnelle qui est intéressante, parce qu'on voit les individus faire des choix, se tromper, se fâcher avec les autres pour des raisons plus ou moins politiques, puis dans un deuxième temps se remettre ensemble et rechercher une nouvelle issue et pour finalement retomber dans une nouvelle scission. Mais c'est souvent, quand on regarde les scissions, il y a la dimension idéologique et puis il y a souvent aussi des questions de personnalité et de conflit. Alors le paradoxe, c'est que ces personnalités relativement fortes pouvaient être en désaccord politique ou donner un désaccord politique à des perceptions ou à des visions du monde différentes et continuer à rester très proches sur un plan amical. C'est-à-dire que le conflit n'est pas forcément une fâcherie définitive dans le mouvement libertaire. Vous avez des cas où ça devient une fâcherie, d'autres cas où c'est beaucoup plus large, c'est personnalisé tout en étant pas de l'hostilité personnelle.
Si c'est l'avantage de l'anarchie, c'est qu'il n'y a absolument rien de clair.
Il y a jamais rien de clair et rien de définitif. Par exemple, si on prend l'histoire, je vais prendre un autre exemple, qui est l'histoire du syndicalisme libertaire. À partir de 1921-22, vous avez des scissions dans le mouvement syndical en France. Vous avez il y a pas moins de trois CGT qui existent. Et vous allez retrouver des libertaires au départ dans la première scission syndicale entre la CGT et la CGT unitaire qui est dirigée par les communistes. Les libertaires participent à la CGT unitaire où ils co-dirigent au tout début, la centrale syndicale, mais se rendant compte qu'ils sont majoritaires, ça provoque une scission chez les libertaires sur le thème: qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste avec les communistes? Ça, c'est hors de question. Est-ce qu'on reste tout seul dans notre coin? Ça, c'est une possibilité. C'est ce qui va donner naissance à la troisième CGT qui s'appellera la CGT syndicaliste révolutionnaire. Et un certain nombre d'autres qui vont dire, bah non, on va revenir avec la CGT, alors qu'on qualifie avec des grands guillemets de réformistes, pour éviter justement d'être tout seul et pour pouvoir continuer à porter la parole libertaire. Et donc, vous avez deux manières, et les uns et les autres sont en désaccord politiquement, peuvent même s'injurier dans la presse, mais continuer à s'estimer parallèlement sur un plan individuel sur un plan individuel. Et donc, il y a toujours cette impression dans le mouvement libertaire que, c'est cette impression que le mouvement libertaire donne, alors c'est peut-être aussi pour ça que ça s'appelle l'anarchie, c'est qu'il y a toujours une vague impression de chaos, en fait, qui est liée au modèle initial qui est la diversité, en fait, la diversité des perceptions d'anarchisme ou des modes de propagande de l'anarchisme. Et à partir de ce moment-là, cette diversité donne à l'anarchisme une complexité qu'on ne retrouve pas dans les autres courants politiques ou moins dans les autres courants politiques.
Ah oui.
Dans les familles politiques avec un centralisme prononcé, que ce soit une partie de la droite comme le gaullisme, c'est De Gaulle qui décide et puis les autres appliquent, ou le futur chef du parti gaulliste qui donne l'impulsion. Chez les communistes, bien évidemment,
le comité central.
C'est le comité central, donc c'est l'unité doctrinale et il n'est pas question de sortir de la ligne. Chez les socialistes, c'est plus compliqué. Là, on retrouve une racine commune qui vient du 19e siècle entre les libertaires et les autres pour avoir une différence d'appréciation. C'est-à-dire qu'on retrouve cette diversité de tendances chez les socialistes. Alors, marquée de manière différente parce que les socialistes s'organisent en tant que courant et participent à la vie publique, donc c'est plus facile à repérer. Chez les libertaires, comme c'est beaucoup plus marginal, beaucoup plus des expériences individuelles, c'est moins facile à expliquer. Mais il y a une forme de gémellité, si vous voulez, entre ces deux modèles, ces deux interprétations possibles du socialisme. Sachant que les libertaires, eux, vont privilégier les expériences individuelles.
Et on va se faire un second intermède musical avec Damien Saez, qui est un anarchiste pur jus et qui chante Camarade Président.
Moi, quel est ce monde que je ne comprends plus? Si c'est ça mon pays, si la France est perdue, si Paris sous les bombes a le sourire vermeil, si je crois les colombes ont pris du plomb dans l'aile, quand les news du matin ressemblent aux champs de ruines, quand pour ton pain mon vieux, ouais putain tu tapines, quand ils t'ont bien baisé, quand nos gouvernements ne sont ici que pour protéger les puissants, tu la sens la pilule, à le goût du cyanure, quand même la caresse, à le goût des blessures, quand sont ceux qui tolèrent, qui sont plus tolérés, quand devient une insulte, ou de parler français, aux enfants des progrès qui vantent leur histoire, sur réseau en photo, pour un peu d'illusoire, de tous bords, si je crois, c'est toujours les fascismes, ici qui font la loi, font leur colonialisme, quand c'est l'instruit toujours qui combat la censure, quand la bêtise humaine a la parole, c'est sûr, quand c'est l'art qu'on baïonne, mais qu'on laisse parler, la violence du vulgaire, sur des chaînes d'enculés, quand tes réseaux sociaux ne servent qu'aux insultes, qu'à la pensée châtiée, au profit de l'inculte, quand c'est la pourriture qui devient la culture, quand c'est ton pays, l'état d'urgence bien sûr, quand on attend de ceux-là qui poussent un ballon, de porter le drapeau, de porter la nation, quand on laisse parler ceux qui savent pas lire, quand le peuple a besoin d'un iPhone pour écrire, quand la littérature vaut moins que des billards, quand le goût du cyanure, ouais, c'est la fin du mois, entre peuple lecteur et peuple follower, si la France a choisi, putain j'ai mal au cœur, quand sont les travailleurs devenus les parias, quand l'humain ne sait plus ni pour qui ni pourquoi, quand le siècle perdu n'offre que les combats, puis quand la bête humaine parle de Dieu je crois, dis merci à ton maître, plie toujours les chines, au culte du paraître, à la mort des usines, à ces préfabriqués qui brûlent les collines, de l'espoir qui s'éteint, du populaire qui chine, suicide humanitaire, suicide humanité, sur les trottoirs toujours les peuples déchoués, nos gueules de sang-dents et nos gueules épilées, du cerveau des bestiaux, c'est la loi des marchés, camarades présidents, des temples sans abri, des actionnaires du monde, des cimetières à crédit, camarades présidents, de la finance ordure, des les usines fermées sur pour des pourritures. Camarade président, des tours de la misère, tu t'as vu les loyers de la France populaire. Camarade président, du pétrole à la pompe, des comptes à l'étranger, des actions qui montent. Camarade président, des gamins fusillés. Camarade président, des milices à Calais. Camarade président, du peuple fatigué. Camarade président, de se faire enculer. Camarade président, du peuple descendant à la solde médaire, des capots, des petits chefs. Camarade président, du peuple impôt facture. Non me dis pas que ça va, pour la sécu c'est sûr. Camarade président, 5 millions de chômeurs. Camarade président, tu crois pas qu'il est l'heure. Camarade président, ouais, camarade Twitter, change quelque chose à la France qui meurt. Camarade président, putain, ça va péter. Camarade président, ta bourse va cramer. Camarade président, tu démocrate progrès, qui veut qu'on aille voter sur en bouchant son nez. Pour le prof tabassé, pour la pornocratie, pour l'esclave salarié par la mort à crédit, pour le peuple échoué sous les tentes à Paris, pour l'accent circonflexe, les chapeaux sur les i. C'est la lutte et je crois, mes amis, mes frangins, qu'il est l'heure de brandir le drapeau de l'humain. Qu'il est l'heure, cœur serré, de sauver la récolte. Qu'il est l'heure, poing levé, de sonner la révolte.
Camarade président de Damien Saez, et nous nous retrouvons avec Sylvain Boulouk et son ouvrage passionnant, une histoire des anarchistes, qui s'appelle Le peuple du drapeau noir, qui est paru aux éditions Atland, dont on arrive à la Seconde Guerre mondiale et au dilemme qui se pose, est-ce qu'il faut aller combattre ? Deuxième dilemme, comme la raclée n'a pas tardé à arriver, qu'est-ce qu'on fait une fois que la France est vaincue ? Est-ce qu'on résiste ? Est-ce qu'on collabore ? Etc.
Alors là se pose le problème de manière un peu différente quand même que pour la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a toute la dimension antifasciste. Et cette dimension antifasciste
vient de la guerre d'Espagne.
Vient de la guerre d'Espagne, et donc venant de la guerre d'Espagne, il y a quand même un certain nombre de libertaires qui voient dans ce qui se passe en Allemagne nazie un danger, et un danger principal. Et donc vous avez un certain nombre de libertaires qui, au nom de cet antifascisme, s'engageront, alors pour les Espagnols, à installer en France dans la Légion étrangère, pour un certain nombre d'autres libertaires, comme le responsable de la librairie libertaire des années 30, qui était, je dis son prénom, Frémont, qui va aller s'engager et qui mourra au front en 1940. Après, en 1940, l'armée allemande envahit le pays, et là, effectivement, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour les libertaires. Et au fur et à mesure que la France s'installe, soit dans la collaboration, soit pour d'autres, choisissent la résistance, les libertaires vont être confrontés à ce même dilemme. Alors, une grande partie d'entre eux va relativement tôt choisir la résistance, que ce soit la résistance. Que ce soit la résistance syndicale, que ce soit la résistance par des modalités un peu différentes, accueillir les réfugiés, cacher les juifs, faire des faux papiers. Donc il y a cette dimension-là qui est présente. Vous avez une deuxième dimension qui est, de toute manière, entre fascisme et démocratie, on choisit pas. Donc il y a toute une partie des libertaires qui vont attendre en se disant, on verra bien ce qui se passe dans les mois à venir. Et vous avez une petite minorité, environ 10% des libertaires, qui va faire le choix inverse, qui va participer activement à la collaboration. Alors, c'est pas de la, sauf quelques exceptions, c'est pas de la collaboration très très active, sauf un ou deux qu'on retrouve même jusqu'à Sigmaringen aux côtés de Doriot, mais c'est plutôt de la participation à ce qu'on a appelé les COSI, donc c'était les restaurants communautaires, mais des œuvres de soutien à Vichy. Et donc vous avez cette double dimension enfin cette triple dimension qui est présente et structurante dans l'histoire du mouvement libertaire, qui va poser de gros problèmes à la libération, parce qu'un certain nombre de libertaires là seront mis à la marge complètement en disant bon bah écoutez, vu ce que vous avez fait entre 40 et 44, il serait souhaitable que on fasse pas trop état de votre passé politique et que vous ne fassiez pas trop état de vos opinions politiques. Mmh. Ce qui les empêchera pas eux de continuer à animer un certain nombre de revues qu'ils animeront comme une revue qui s'appelait Défense de l'Homme, mais qui seront plus dans les instances officielles ou dans les groupes phares du mouvement libertaire. Et donc, on retrouve les conséquences de cette polyphonie ou de ces choix multiples qui ont pu exister, mais qui ne sont pas propres, quand on regarde la période de la collaboration, qui ne sont pas propres aux libertaires, hein, qui traversent...
Non, parce qu'on a retrouvé des collabos partout, très longtemps après, y compris au gouvernement.
Oui, mais... on retrouve des résistants. Le choix résistance-collaboration, il est encore à chaque fois un choix individuel et dans lequel finalement, alors peut-être moins pour le Parti communiste à partir de 41, mais dans lequel finalement la structuration idéologique joue moins que le choix individuel. Et après aussi, l'autre chose qui joue beaucoup, c'est les réseaux dans lesquels pouvaient être inscrits les personnes.
Pour les communistes, il y a eu une migration massive de militants, de communistes vers le Parti populaire français de Doriot. Donc, pour eux, c'était fait, quoi.
Oui, mais c'est même antérieur à la guerre.
Oui.
Effectivement, donc il y a cette dimension qui est très présente dans cet éclatement qui vient une nouvelle fois montrer la diversité de ce mouvement libertaire et sa difficile adaptation à la réalité et sa difficulté à appréhender des phénomènes en tant que groupe collectif. Hein, c'est toujours des choix individuels.
Parce qu'il n'y a pas de chef.
Il n'y a pas de chef et il n'y a pas de ligne. Hein, donc, où il y a des lignes qui permettent d'envisager les choses de manière différente.
Et ça a continué après la guerre, parce que la guerre, effectivement, elle escalait. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des choix très, très différents auxquels on ne pouvait pas s'attendre. Mais après la guerre, il y a eu les guerres coloniales, les guerres de libération, aussi bien en Indochine qu'en Algérie, etc. Il y a eu des guerres coloniales un peu partout. Et l'anarchie n'a pas été capable d'intervenir, elle l'a pas pensé, elle était entre les deux, entre le refus de la guerre, donc son pacifisme, toujours son antimilitarisme, et elle savait pas trop.
Alors oui, alors là ça renvoie à d'autres, enfin ça renvoie un peu à la même questionnement que l'antifascisme, mais ce qui se passe c'est qu'on retrouve à propos des guerres coloniales une fragmentation. On a un premier groupe, pour résumer schématiquement, qui va dire on soutient des luttes de libération nationale, mais c'est important puisque c'est une première étape vers la libération. Donc ils soutiennent de manière inconditionnelle. Vous avez un deuxième groupe qui va dire nous on est antimilitariste, on déteste la guerre. Donc, on va dénoncer la guerre et on va dénoncer la colonisation. Mais ce deuxième groupe va dire en même temps, mais on ne va pas soutenir les colonisés qui se révoltent, parce que quand on regarde la composition des partis qui soutiennent la colonisation, on se rend compte que au Vietnam, c'est dirigé par Ho Chi Minh, et les libertaires se souviennent de Ho Chi Minh, parce que Ho Chi Minh avait été, sous le nom de Nguyen At Khoi, un des fondateurs du parti communiste. Donc, ils savent quel est le personnage. Ils savent que le Viet Minh est plutôt dirigé par des proches de Staline. Donc, il y a une méfiance très forte. Ils ont quelques échos des exactions qui peuvent être commises dans le camp vietnamien. Et donc, ils sont dubitatifs, voire ils sont hostiles pour le Vietnam. Alors, non pas à l'indépendance du Vietnam, ils sont hostiles au mouvement national, au Front de Libération Nationale vietnamien, au Viet Minh d'abord, puis par la suite au FLN. Néanmoins, vous en avez quelques-uns qui disent, oui, mais il faut d'abord que ce soit des libérations nationales avant que ce soit d'autres formes. Et donc, il y a cet aspect-là pour le Vietnam qu'on retrouve pour l'Algérie avec le FLN. D'une autre manière, parce que pour l'Algérie, le mouvement national algérien a été composé de plusieurs couches. La première couche, c'était des vieux militants qui avaient connu les anarchistes dans l'entre-deux-guerres et dont ils étaient proches. Et à partir de ce moment-là, ils se rapprochent de ces groupes. Sauf que ces groupes, notamment le groupe du Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques de Messali Hadj, sont éliminés par le FLN. Et donc, pour les libertaires, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, on va pas soutenir des mouvements qui sont des mouvements liberticides, parce que pour un libertaire, souvent le plus important, c'est la liberté individuelle. Et donc, ce refus de soutenir des mouvements liberticides fait qu'ils refusent de prendre parti. Pour la majorité d'entre eux, mais une petite minorité va, par contre, soutenir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, professionnellement, les luttes de libération nationale. Ce qui fait qu'on a la même impression, on a l'impression de confusion. Alors, quand on regarde le fond doctrinaire, c'est quand même plus compliqué, parce que c'est un double refus. C'est à la fois un refus de la colonisation, il ne faut pas dire qu'ils étaient pour la colonisation, ce n'est pas une réalité.
Ah non, j'ai dit qu'ils étaient perdus.
Mais c'est aussi, alors ils ne sont pas forcément perdus, c'est que c'est une lutte qui ne les concerne pas en fait. Ils se disent, on n'a rien à voir avec cette histoire, ça n'augure rien de bon. Avec un aspect qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est que, il y a des peuples qui souhaitent devenir indépendants. Et comme ça renvoie à un tabou qu'on évoquait au début de l'émission, qui est l'anti-étatisme. Ils voient des nations se construire, ils voient des États se construire. Donc ils disent, ça fait qu'un appareil répressif de plus, ça fait qu'une police de plus, ça fait qu'une justice, un ministère de la justice en plus. Ça ne nous intéresse pas puisque ce n'est pas une possibilité pour l'anarchisme de se développer. Et comme, en plus, dans les pays colonisés, le mouvement libertaire est encore plus faible que dans la métropole, toute possibilité d'une présence libertaire est impossible. Et quand il y en a eu, en plus, de toute manière, ils ont été éliminés par les partis États qui étaient en train de se construire. Donc c'est aussi, alors là, pour le coup, c'est pas un impensé de la réalité, c'est que le positionnement politique des libertaires fait qu'il n'est pas possible pour eux de s'engager dans le soutien aux luttes de libération nationale. C'est vraiment un impensé. Et il y a une deuxième chose qui est une question générationnelle, c'est-à-dire qu'on assiste à ce moment-là à un basculement générationnel ou à un renouvellement générationnel. Les plus jeunes sont beaucoup plus influencés par le Parti communiste et par l'anticolonialisme et l'anti-impérialisme surtout. Alors que les plus anciens, eux, réagissent d'abord par rapport au poids du Parti communiste. Et ils se souviennent, parce que pour un certain nombre d'entre eux, ils se sont fait casser la figure par les communistes dans les manifestations.
Assassinés pendant la guerre d'Espagne.
Donc pour eux, voir l'ombre du communisme se profiler quelque part est un facteur qui est un facteur qui est un repoussoir absolu, puisque dans les anti qu'on avait évoqué tout à l'heure, on en avait oublié un qui est central dans l'anarchisme à partir du XXe siècle, qui est l'anticommunisme. On peut l'appeler l'anti-léninisme, l'anti-bolchevisme, ce qu'on veut, ce qui est quand même de l'anticommunisme, parce qu'on va retrouver plusieurs libertaires, et non des moindres, qui sont dans les grands rassemblements anticommunistes, par justement cette haine de la dictature et des pouvoirs autoritaires et par cet amour de la liberté. Oui. Voilà. Donc il y a cette double tension. En fait, là pour le coup, c'est un phénomène de tension entre des versions de l'anarchisme, des interprétations de l'anarchisme qui sont différentes. Mais pour les guerres coloniales, très, très, très majoritairement, il y a plutôt un unanimisme. C'est un tout petit groupe qui finalement va soutenir les luttes de libération nationale. Ce qui ne veut pas dire que le reste, je le répète, soit hostile qu'il soit favorable au colonialisme.
Alors, le temps file, on va passer très vite, juste après les guerres coloniales, parce que finalement, ça suit très court dans le temps. On va passer à mai 68, qui, alors là, sur toutes les chaînes, etc., c'est le règne de l'anarchie, etc. Sauf que, en fait, si on lit bien votre livre, on s'aperçoit que 68, c'est le grand ratage des militants anarchistes qui étaient en gros pas plus de 1000 à l'époque, répartis en 3 organisations, donc c'est vous dire, c'est pas énorme, et que ils ont vu passer les années 70 aussitôt après, qui étaient leurs années, les années de l'autogestion, de l'IP, les luttes pour justement le féminisme contre l'armée dans l'ARZAC, contre l'État à Plogoff, et qui sont passés à côté.
Alors là aussi c'est plus compliqué, sur l'aspect numérique des libertaires, c'est effectivement, ils étaient relativement peu nombreux puisqu'il y avait que très très peu de militants avant mai 68. Par contre, il y a eu une diffusion, alors on a entendu Georges Brassens, la mauvaise réputation au début de l'émission, il y a eu une diffusion des idées libertaires par des vecteurs nouveaux, qui était la chanson française, qui était diffusée massivement. Alors, même si Brassens et Ferré étaient souvent interdits d'antenne, mais il y avait quand même un achat et un amour d'une partie du public pour Georges Brassens, qui diffusait ses idées libertaires. Et donc, il y a une diffusion des idées libertaires qui passe par d'autres canaux et qui ne se concrétise pas forcément par de l'action militante structurée dans des groupes militants. Ce qui fait que tout au long de ce qu'on appelle la décennie des années 70, il y a des luttes qui recouvrent des thématiques qui avait été défendu par les libertaires ou à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, mais dans lequel les libertaires en tant que tels ne prennent qu'une place secondaire parce que ces thématiques sont reprises par d'autres groupes politiques qui ont une influence beaucoup plus importante dans la société. Après, sur mai 68, l'événement en tant que tel, il y a quand même une chose amusante à noter, c'est que le 10 mai, donc la fameuse nuit des barricades, il y avait le gala annuel du libertaire. Et que ce gala annuel du monde libertaire était fait par Léo Ferré, qui à la fin, donc qui chante pour la première fois Les Anarchistes, sa chanson Les Anarchistes, et puis qui à la fin du gala dit à l'auditoire: je pense que vous avez mieux à faire que de continuer à m'écouter. Et il semblerait, d'après les témoignages qu'on peut avoir, que les participants au gala se soient égayés dans le Quartier Latin et participaient notamment, d'après certains d'entre eux, à la tenue des barricades jusqu'à très très tard dans la nuit. Mais c'est la même chose, il n'y a pas eu de publicité faite sur cette action. Et donc, c'est souvent des témoignages individuels qui permettent de recouvrir ou de redécouvrir cette réalité.
En fait, j'ai l'impression maintenant, effectivement, il y a l'aspect culturel est énorme. On le retrouve en littérature, en peinture, en musique. Il y a vraiment des artistes qui ont propagé des idées anarchistes et qui continuent à le faire. Des écrivains comme Pêchereau, comme Hervé Lecor. Il y a les radios libres, radios libertaires, etc. L'anarchisme, c'est vit toujours, mais elle est toujours utilisée par l'état médiatique comme un repoussoir.
Ben, alors, il y a deux choses. Il y a l'anarchie, effectivement, qui renvoie à des images de violence ou à des images de, entre guillemets, vous passez l'expression bordel, qui est une réalité, qui est que c'est utilisé par le pouvoir comme repoussoir, ça fait peur encore à une partie de la population. Parce
les fameux Black Blocs.
Où on imagine que ces soirs à Bachal soient des casseurs, les Black Blocs, qui ne sont pas tous libertaires, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, le sont, et qui alimentent, à dessein, ou qui alimentent pour s'amuser cette machine à fantasme. Mais en même temps, vous avez une diffusion, c'est ce qu'on vient d'entendre avec la chanson de Damien XVI, alors camarade président, mais plusieurs de ses autres chansons sont la même chose, vous avez toute une diffusion culturelle de cette pensée libertaire qui passe notamment par la chanson, comme vous venez de le dire, par la littérature, par la poésie, par plein de vecteurs qui font que l'anarchisme est quelque chose qui n'a jamais été très très fort depuis la fin du 19e siècle sur un plan organisationnel, mais qui, sur un plan culturel, et c'est ce qui lui permet de survivre, qui se diffuse par des vecteurs culturels. Et ce qui fait que là où on ne s'attend pas forcément à le voir revivre, il réapparaît un peu comme l'hydre de Lerne, parce que justement c'est une façon de percevoir et de concevoir la société qui est un peu différente. Mais on le retrouve aussi dans des expériences concrètes. On peut penser à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes et à la récupération
dans les ZAD.
Dans les ZAD, vous avez une contre-société libertaire qui existe dans un certain nombre d'endroits, qui ne va pas forcément faire une publicité énorme. Alors, la ZAD a eu un écho important, mais qui ne fera pas forcément une publicité énorme et qui adoptera des modes de vie libertaires sur le thème où on est en train de construire de manière alternative, et là, pour le coup, de manière plus ou moins pacifique, une autre société sans forcément se développer par les termes de la propagande traditionnelle.
Et moi, je vais vous emprunter le mot de la fin. C'est increvable anarchisme. On n'arrivera pas à en venir à bout. C'est impossible. À chaque fois, on croit qu'il est mort et il renaît de ses cendres. Et puis, avec des idées, avec des choses. Donc là, on a passé une heure, on a fait à peine qu'effleurer tout l'ensemble des informations qu'il y a dans votre livre « Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes » qui est paru aux éditions Atlante. Merci beaucoup Sylvain Boulouk.
Merci à vous.
Vraiment, c'était absolument passionnant.